Chapitre 14. Effets secondaires. Ces choses-là se sont déroulées il y a 3 ans. Je vis aujourd'hui à Kailua, pas loin de mon frère Conrad. Kailua est une jolie ville côtière de la Grande Île. J'habite 101 Street, un quartier assez éloigné de la plage et très éloigné des lieux à la mode. Mais l'appartement est spacieux et, du moins pour Hawaï, d'un loyer abordable. Et puis, considération importante, il est proche de Kewley Road. C'est dans Kewley Road que se trouve le centre psychiatrique Brandon L. Martin, où consulte mon psychiatre. Edward Braithwaite prétend avoir 41 ans, mais je lui en donnerais plutôt 30. J'ai découvert que lorsqu'on a 61 ans, l'âge que j'aurai au mois d'août, tous les hommes et femmes de 25 à 45 ans en paraissent 30. Difficile de prendre les gens au sérieux, difficile pour moi en tout cas, quand ils ont l'air à peine sortis de la crise d'adolescence. Mais je fais des efforts avec Braithwaite parce qu'il m'a fait beaucoup de bien, même si je dois dire que les antidépresseurs en ont fait davantage. Je sais qu'il y a des gens qui ne les aiment pas. Ils prétendent que ça émousse leur intellect autant que leurs émotions, et je peux en témoigner. Dieu merci, ça les émousse. Je suis tombé sur Ed grâce à Crani qui a lâché la guitare pour le sport, puis le sport pour l'astronomie. Même s'il est toujours un crack au volley-ball et qu'il n'est pas mauvais au tennis non plus. J'ai raconté au docteur Braithwaite tout ce que vous avez lu dans ces pages. Je n'ai rien passé sous silence. Il n'en croit pas un mot, bien sûr. Quel individu censé le ferait? Mais quel soulagement de le raconter. Et certains détails de l'histoire lui ont donné à réfléchir, car ils sont vérifiables. Pasteur Danny, par exemple. Encore aujourd'hui, une recherche Google sur ce nom vous donne près d'1 million de résultats. Vérifiez vous-même si vous ne me croyez pas. Que la moindre de ces guérisons ait été ou non authentique reste sujet à controverse. Mais ceci est vrai même du pape Jean-Paul II, qui a prétendument guéri une religieuse française de la maladie de Parkinson de son vivant et une habitante du Costa Rica d'un anévrisme, 6 ans après sa mort. Un fameux tour, ça! Ce qui est arrivé à beaucoup de gens guéris par Charlie, ce qu'ils se sont infligés à eux-mêmes et ce qu'ils ont infligé à d'autres, est également du domaine des faits et non de la conjecture. Ed Braithwaite pense que j'ai entremêlé ces faits à mon récit pour lui donner de la vraisemblance. Il me l'a quasiment dit textuellement lors d'une séance vers la fin de l'année dernière, en me citant cette phrase de Jung : « Les plus brillants affabulateurs du monde sont dans des asiles ». Je ne suis pas dans un asile. Lorsque j'ai terminé mes séances au centre psychiatrique Martin, je suis libre de partir et de retourner à mon appartement silencieux et ensoleillé. Et de ça, je suis reconnaissant. Je suis aussi reconnaissant d'être encore en vie, alors que tant des patients de Pasteur Danny ne le sont plus. Entre l'été 2014 et l'automne 2015, ils se sont suicidés par dizaines, peut-être même par centaines, difficile de savoir exactement. Je ne peux m'empêcher de les imaginer se réveillant dans cet autre monde, défilant nus sous les étoiles hurlantes, aiguillonnées par de terribles soldats fourmis. Et je suis très content de ne pas me trouver parmi eux. Je pense qu'éprouver de la gratitude envers la vie, quelle qu'en soit la cause, indique que celui qui l'éprouve a réussi à préserver le noyau de sa santé mentale. Qu'une partie de ma santé mentale est disparue à jamais, amputé tel un bras ou une jambe par ce que j'ai vu dans la chambre mortuaire de Mary Fay, est un fait avec lequel j'ai appris à vivre. Et durant 50 minutes, tous les mardis et jeudis, de 14h à 14h50, je parle. Pour parler, je parle. Qu'est-ce que je parle? Le lendemain de l'orage, je me suis réveillé sur l'un des canapés dans le hall d'entrée de l'hôtel Goat Mountain. J'avais le visage douloureux et la vessie sur le point d'éclater, mais je n'avais aucune envie d'aller me soulager dans les toilettes face à l'entrée de la salle de restaurant. Les parois étaient couvertes de miroirs et je ne tenais pas à percevoir mon reflet, même par accident. Je suis sorti pisser dehors et j'ai vu l'une des voiturettes de golf de l'hôtel renversée devant les marches du perron. Il y avait du sang sur le siège et sur le rudimentaire tableau de bord. J'ai baissé les yeux vers ma chemise et vu d'autres taches de sang. Quand j'ai essuyé mon nez enflé, une croûte marron est restée collée à mon doigt. J'étais donc rentré en conduisant la voiturette, je l'avais renversée en arrivant et m'étais cogné le visage contre le tableau de bord, même si je n'en avais aucun souvenir. Dire que je ne tenais pas à retourner au cottage près de Skytop serait l'euphémisme du siècle, mais je devais y retourner. Remonter dans la voiturette n'a pas été le plus difficile. La conduire dans la pente et sur le sentier à travers bois fut un peu plus compliquée, et chaque fois que je devais m'arrêter pour ôter du passage des branches tombées, repartir m'était toujours plus difficile. J'avais le nez qui palpitait et un mal de crâne me martelait les tempes. La porte était encore grande ouverte. Je me suis garé, j'ai mis pied à terre, et dans un premier temps, je n'ai rien pu faire d'autre que rester planté là, à frotter mon pauvre nez enflé jusqu'à ce qu'il se remette à saigner. La journée était belle et ensoleillée. L'orage avait lavé et emporté avec lui toute la chaleur étouffante et l'humidité. Mais la pièce au-delà de cette porte ouverte était une caverne d'ombre. « Je n'ai aucune inquiétude à avoir, me suis-je dit. Il ne se passera rien, c'est fini. » Oui, mais si ça ne l'était pas, si quelque chose était encore en train de se passer, si elle m'attendait, prête à me saisir avec cette pince faite de visage humain. Je me suis forcé à monter les marches, l'une après l'autre, et quand un corbeau a lancé un croassement rauque dans les bois derrière moi, j'ai courbé les épaules en poussant un cri et en me couvrant la tête. La seule chose qui m'a empêché de détaler était la certitude que si je ne voyais pas de mes propres yeux ce qui se trouvait à l'intérieur, la chambre mortuaire de Mary Fay continuerait à me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y avait plus trace de l'abomination palpitante à l'énorme œil noir. La patiente Oméga de Charlie était étendue telle que je l'avais vue pour la dernière fois. Deux trous perforant sa chemise de nuit, deux autres le drap froissé autour de son bassin. Sa bouche était ouverte, et bien qu'il n'y ait plus aucun signe de cette horrible extrusion noire, je n'ai même pas cherché à me convaincre que j'avais tout imaginé. Je n'étais pas dupe. Le serre-tête métallique, à présent sombre et terne, saignait toujours son front. La posture de Jacobs, en revanche, avait changé. Au lieu d'être couché sur le flanc près du lit, les genoux repliés, il était adossé en position assise contre la commode, de l'autre côté de la pièce. Ma première pensée fut qu'en fait, il n'était pas mort du tout quand je m'en étais allé. La terreur due à ce qui s'était passé dans cette chambre avait déclenché un autre AVC, qui ne lui avait pas été immédiatement fatal. Il était revenu à lui, avait rampé jusqu'à la commode, et il était mort, là. Oui, ça aurait pu être ça, s'il n'y avait pas eu le revolver dans sa main. Je l'ai longuement fixé du regard, sourcils froncés, cherchant à me rappeler. Ça ne m'est pas revenu sur le moment, et j'ai refusé la proposition de Ed Braithwaite de m'hypnotiser pour tenter d'avoir accès à mes souvenirs refoulés. En partie parce que j'ai peur de ce que l'hypnose pourrait faire remonter des régions les plus obscures de mon esprit, mais surtout parce que je sais ce qui a dû se passer. Je me suis détourné du corps de Charlie, la même expression d'horreur était toujours figée sur son visage, pour regarder Mary Fay. J'avais tiré 5 coups de revolver, j'en étais sûr, mais seulement 4 balles l'avaient atteinte. La 5e s'était perdue, ce qui n'a rien de surprenant si vous tenez compte de l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Mais quand j'ai levé les yeux vers le mur, j'ai vu 2 impacts de balles. Étais-je retourné à l'hôtel, puis revenu au cottage la veille au soir? J'ai supposé que c'était possible, mais je ne pensais pas que j'aurais pu me contraindre à le faire, même dans un état second. Non, j'avais organisé cette mise en scène avant mon départ. Ensuite, seulement j'étais rentré à l'hôtel. J'avais renversé la voiturette et monté les marches en titubant pour m'endormir ensuite dans le hall. Charlie ne s'était pas traîné de l'autre côté de la pièce. C'était moi qui l'y avais traîné. Je l'avais adossé à la commode, j'avais placé le revolver dans sa main droite et avais tiré dans le mur. Les policiers qui découvriraient cette scène bizarre ne pratiqueraient peut-être pas de test balistique sur la main de Charlie en quête de résidus de poudre. Mais s'ils le faisaient, ils en trouveraient. J'ai voulu couvrir le visage de Mary Fay, mais tout devait être laissé exactement en l'état. Et puis, ce que je désirais par-dessus tout, c'était fuir cette pièce saturée d'ombre. J'ai cependant pris encore un moment pour m'agenouiller auprès de mon vieux 5e emploi et effleurer l'un de ses maigres poignets. Tu aurais dû t'arrêter, Charlie, je lui ai dit. Tu aurais dû t'arrêter il y a longtemps. Mais l'aurait-il pu? Il serait facile de répondre oui, car cela m'autoriserait à désigner un coupable. Seulement voilà, je devrais aussi me désigner moi-même, car je ne m'étais pas arrêté, moi non plus. La curiosité est une terrible chose, mais c'est une chose humaine, tellement humaine. J'étais pas là du tout, ai-je confié au docteur Braithwaite. Voilà ce que j'ai décidé. Et une seule personne pouvait témoigner du contraire. L'infirmière, a deviné Ed, Jenny Knowlton. Je me suis dit qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de m'aider. On devait s'aider mutuellement, et la meilleure façon de le faire, ce serait de dire qu'on avait quitté Goat Mountain ensemble quand Jacobs avait commencé à délirer en disant qu'il fallait couper l'oxygène de Mary Fay. J'étais sûr que Jenny tomberait d'accord avec ça, ne serait-ce que pour s'assurer que je tairais son rôle dans l'histoire. J'avais pas son numéro de portable, mais je savais que Jacobs l'aurait. Son carnet d'adresse était dans la suite Cooper, et bien sûr, le numéro de Jenny y figurait. Je l'ai appelé et je suis tombé sur sa messagerie. Je lui ai demandé de me rappeler. Comme le numéro d'Astrid y était aussi, j'ai essayé de l'appeler ensuite. Messagerie aussi. Oui. Je me suis couvert le visage des deux mains. À ce moment-là, Astrid en avait fini pour toujours avec les téléphones portables. Oui, c'est ça. Voici ce qui s'est passé. Jenny a conduit sa voiturette jusqu'à l'hôtel. Jenny est montée dans sa Subaru. Jenny a roulé jusqu'à l'île des Monts Déserts sans s'arrêter. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver le réconfort du foyer, c'est-à-dire Astrid. Et bien évidemment, Astrid l'attendait. Leurs corps ont été retrouvés juste derrière la porte d'entrée. Astrid a dû plonger son coutelas de cuisine dans la gorge de sa compagne à la seconde où Jenny a franchi la porte. Puis elle s'en est servie pour se taillader les veines, en biais, ce qui n'est pas la technique la plus recommandée. Mais elle a tranché jusqu'à l'os. Je les imagine, gisant là, dans des mares de sang en train de coaguler, tandis que le téléphone de Jenny sonnait dans son sac, puis celui d'Astrid sur le comptoir de la cuisine, près du râtelier à couteaux. Je ne veux pas me l'imaginer, mais je suis impuissant à l'empêcher. Tous les patients guéris par Jacobs ne se sont pas suicidés. Mais au cours des deux années suivantes, un grand nombre l'ont fait. Tous n'ont pas emporté avec eux un ou plusieurs êtres chers, mais une cinquantaine l'a fait. Ça, ce sont mes recherches qui me l'ont appris, et je les ai partagées avec Ed Braithwaite. Il aimerait bien mettre ça sur le compte des coïncidences, mais il ne peut pas totalement s'y résoudre, même s'il se plaît à contester ma propre conclusion à ce cortège de folie, de meurtre et de suicide. La mère exige des sacrifices. Patricia Farmingdale, la femme qui se versait du sel dans les yeux, a récupéré assez de vision pour étouffer son vieux père dans son lit avant de se faire sauter la cervelle avec le rugueur de son mari. Emil Klein, le mangeur de terre, a abattu sa femme et son fils à l'arme à feu avant d'aller dans son garage, de s'asperger d'essence à tondeuse et de craquer une allumette. Alice Adams, guérie du cancer au Revival de Cleveland, est rentrée dans une supérette avec l'AR-15 de son petit ami et a ouvert le feu, tuant trois personnes au hasard. Quand le chargeur a été vide, elle a sorti de sa poche un petit Colt 38 à canon court, se l'est mis dans la bouche et s'est tiré une balle dans le palais. Margaret Tremaine, l'une des femmes guéries par Pasteur Danny à San Diego, maladie de Crohn, a jeté son bébé du haut de son balcon du 9e étage avant de le suivre dans le vide. Les témoins ont raconté qu'elle n'avait pas proféré un son en tombant. Et puis, il y a eu Al Stamper. Je ne vous apprends sans doute rien. Comment auriez-vous pu rater les gros titres racoleurs à la une des tabloïds des supermarchés? Il a invité ses deux ex-femmes à dîner, mais l'une d'elles, la seconde je crois, s'est fait prendre dans les embouteillages et est arrivée en retard. Une chance pour elle. Quand elle est entrée par la porte ouverte de la maison de Stamper à Westchester, elle a découvert l'épouse numéro un ligotée sur sa chaise à la table de la salle à manger, le haut du crâne enfoncé. L'ex-chanteur des Volites a alors surgi de la cuisine, brandissant une batte de baseball engluée de sang et de cheveux. L'épouse numéro deux a pris la fuite en hurlant « Stamper à ses trousses !» Il a couru sur la moitié de la rue avant de tomber raide mort d'une crise cardiaque. Pas étonnant, il était en surpoids. je suis bien certain de ne pas avoir identifié tous les cas, éparpillés comme ils le sont aux quatre coins du pays, et ensevelis dans les accès de violence insensés qui semblent de plus en plus faire partie de la vie quotidienne en Amérique. Bree aurait pu en retrouver d'autres, mais même si elle avait été célibataire et habitant le Colorado, elle aurait refusé de m'aider. Bree Donlin Hughes ne veut plus entendre parler de moi désormais, et je comprends tout à fait. Peu avant Noël l'année dernière, Hugh a téléphoné à la mère de Bree pour lui demander de monter à son bureau à la grande maison. Il a dit qu'il avait une surprise pour elle, et il en avait une en effet. Il a étranglé son ancienne maîtresse avec le cordon d'une lampe électrique, a emporté son corps dans le garage, l'a assis sur le siège passager de sa Lincoln Continental de collection, puis il s'est mis au volant, a démarré le moteur, mis du rock à la radio et tété les gaz d'échappement. Bree sait que j'avais promis de garder mes distances avec Jacobs, et Bree sait que j'ai menti. « Supposons que tout cela soit vrai », m'a dit Ed Braithwaite lors d'une séance récente. « Comme c'est audacieux de votre part », ai-je répondu. Il a souri, mais sans perdre le fil. « Il ne s'ensuivrait pas pour autant que la vision que vous avez eue de cette infernale vie après la mort soit vraie. Je sais que cela vous hante toujours, Jamie, mais considérez un instant tous les gens, sans exclure Jean de Patmos, l'auteur de l'Apocalypse, qui ont eu des visions du paradis et de l'enfer. Des personnes âgées, des enfants même, prétendent avoir glissé un œil sous le voile. Le paradis existe pour de vrai. C'est pratiquement la vision de l'au-delà qu'a eu un gamin qui a frôlé la mort à 4 ans. Colton Burpo, j'ai dit. Oui, je l'ai lu. Il raconte l'histoire d'un dada que seul Jésus peut monter. Moquez-vous tant que vous voudrez, répliqua Braithwaite en haussant les épaules. Dieu sait que c'est une anecdote dont il est facile de se moquer. Mais le petit Burpo a aussi rencontré une sœur, perdue lors d'une fausse couche, dont il n'avait jamais entendu parler. Ça, c'est une information vérifiable, comme tous ces meurtres-suicides. Beaucoup de meurtres-suicides. Colton, lui, n'a rencontré qu'une sœur. La différence est une différence de quantité. Je n'ai jamais pris de cours de statistiques, mais ça, je le sais. Je veux bien admettre que la vision de l'autre monde du gosse est fausse, parce que ça conforte ma thèse que votre vision de cet autre monde, la ville stérile, les êtres fourmis, le ciel de papier noir, est tout aussi fausse. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Oui, et j'aimerais beaucoup me rallier à votre point de vue. Évidemment que j'aurais aimé. N'importe qui aurait aimé. Car tout un chacun doit rendre l'âme, et la perspective de partir pour ce lieu que j'ai vu, de mes yeux vus, a fait plus que jeter une ombre sur ma vie. Elle l'a rendue sans substance et sans importance. Non, pas seulement ma vie, toute vie. Je me cramponne donc à une seule pensée. C'est mon mantra, la première chose que je me dis le matin en me réveillant, et la dernière que je me dis le soir en me couchant. La mère a menti. La mère a menti. La mère a menti. Parfois, j'arrive presque à le croire, mais il y a des raisons qui m'empêchent d'y croire complètement. Il y a des signes. Avant mon retour à Netherland, où j'allais découvrir que Hugh s'était donné la mort après avoir assassiné la mère de Bree, je suis passé chez nous, à Harlow. J'avais 2 raisons de le faire. Lorsque la police découvrirait le corps de Jacobs, il voudrait peut-être m'interroger pour vérifier mon emploi du temps dans le Maine. Ça me semblait important, même si, au final, personne ne m'a inquiété. Mais quelque chose de plus important encore me poussait. J'avais besoin du réconfort d'un lieu familier et de gens qui m'aimaient. Ce réconfort, je ne l'ai pas trouvé. Vous vous souvenez de Caroline, n'est-ce pas, ma petite nièce? Que j'avais promenée partout le jour de la fête de Labor Day en 2013, jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur mon épaule, qui me tendait les bras dès que je passais à sa portée. Quand je suis entré dans la maison où j'avais grandi, Caroline était assise entre sa mère et son père, dans une chaise haute, démodée, qui avait peut-être été la mienne quand j'étais bébé. Quand la fillette m'a vue, elle s'est mise à hurler en se jetant d'un côté et de l'autre si violemment qu'elle serait passée par-dessus bord si son père ne l'avait pas rattrapée. Elle a enfoui son visage contre sa poitrine, sans cesser de s'égosiller. Elle ne s'est tue que lorsque Terry, son grand-père, m'a entraîné dehors sous le porche. « Bon sang, c'est quoi ce plan ?» me demanda-t-il, plaisantant à moitié. « La dernière fois que t'es venu, on ne pouvait pas la détacher de toi. »« C'est pas, » j'ai répondu, « mais bien sûr que je savais. » J'avais espéré passer la nuit là, peut-être même deux, à me gorger de normalité comme un vampire se gorge de sang, mais ça n'allait pas être possible. J'ignorais ce que Caroline percevait exactement en moi, mais je ne voulais jamais revoir son petit visage terrifié. J'ai dit à Terry que j'étais juste passé dire bonjour, que je ne pouvais pas rester dîner, que j'avais un avion à prendre pour Portland. J'arrivais de Lewiston, ai-je précisé, où j'avais fait quelques prises de son pour un groupe dont Norm Irving m'avait parlé. Il pensait qu'ils avaient un potentiel national. « Et ils l'ont ?» m'a demandé Terry. « Bah, lo-fi, à tout casser. » J'ai consulté ostensiblement ma montre. « Oublie ton avion, m'a dit Terry. Tu peux en attraper un autre demain. Viens dîner en famille, petit frère. Cara va se calmer. » Je ne pensais pas, non. J'ai dit à Terry que j'étais attendu sans faute pour des sessions d'enregistrement à Wolfshaw. Je lui ai dit une autre fois, et quand il m'a ouvert les bras, je l'ai étreint de toutes mes forces, sachant qu'il y avait de fortes chances pour que je ne le revoie jamais. J'ignorais tout des meurtres et des suicides à ce moment-là, mais je savais que je portais en moi quelque chose d'empoisonné et que je le porterais sans doute jusqu'à la fin de mes jours. La dernière chose que je voulais, c'était infecter les gens que j'aimais. En retournant à ma voiture de location, je me suis arrêté pour regarder la bande de terre séparant notre pelouse de Methodist Road. La route avait été goudronnée depuis des années, mais cette bande de terre était exactement telle qu'elle était à l'époque où j'y jouais avec les soldats que ma sœur m'avait offerts pour mes 6 ans. J'étais agenouillé là, à jouer avec eux, un jour d'automne 1962, quand une ombre était tombée sur moi. Cette ombre est toujours là. Avez-vous assassiné quelqu'un? Ed Braithwaite m'a posé cette question à plusieurs reprises. On appelle ça, je crois, des reprises progressives. Je souris toujours et lui réponds que non. Il est vrai que j'ai collé 4 balles à la pauvre Mary Fay, mais elle était déjà morte et Charles Jacobs, lui, est mort d'un AVC cataclysmique. Si ça ne lui était pas arrivé ce jour-là, ça lui serait arrivé un autre, et sans doute avant la fin de l'année. Et vous ne vous êtes manifestement pas suicidé, poursuit Ed, avec un sourire pour lui-même, sauf si vous êtes une hallucination, cela dit. Non. Non, je ne suis pas une hallucination. Et vous ne ressentez pas de pulsion suicidaire? Non, même pas sous forme d'hypothétique possibilité, de celles qui vous viennent au beau milieu de la nuit, peut-être, quand vous n'arrivez pas à dormir? Non. Ma vie actuellement est loin d'être heureuse, mais les antidépresseurs ont mis un plancher sous mes pieds. Le suicide ne figure pas sur mon radar, et vu ce qui peut se présenter après la mort, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Il y a autre chose aussi. J'ai le sentiment, justifié ou pas, que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Alors je continue à essayer d'être un type réglo. Je fais la cuisine à la soupe populaire de Harbour House dans Haupupu Street. Je fais du bénévolat 2 jours par semaine au Goodwill de Keulu Drive, à côté de la boulangerie Nini Goose. Quand on est mort, on ne peut plus rien se faire pardonner. Dites-moi, Jamie. Comment se fait-il que vous soyez le seul lemming qui n'ait pas envie de se jeter du haut de la falaise? Pourquoi êtes-vous immunisé? Je me contente de sourire et je hausse les épaules. Je pourrais le lui dire, mais il ne me croirait pas. Mary Fay était la porte d'entrée de la mer dans notre monde, mais moi, j'étais la clé. Tirer dans un cadavre, ça ne tue rien ni personne, si tant est qu'un être immortel comme la mer puisse être tué. Mais quand j'ai tiré ces coups de revolver, j'ai refermé la porte à clé. J'ai dit non, et pas seulement avec ma bouche. Si je racontais à mon psy qu'un être surnaturel, l'un des grands, avait pris la décision, à cause de ce non, de m'épargner en vue de quelque ultime acte de vengeance apocalyptique, le dit psy pourrait se mettre à envisager un internement d'office. Je n'y tiens pas, car j'ai encore un autre devoir à remplir. Un devoir que je juge bien plus important qu'aider à la soupe populaire ou trier des vêtements au Goodwill. À la fin de chaque séance avec Ed, je paye par chèque auprès de sa secrétaire. Je peux m'autoriser cette dépense car l'ancien guitariste de rock itinérant devenu ingénieur du son est un homme riche à présent. Quelle ironie, n'est-ce pas? Hugh Yates est mort sans descendance, à la tête d'une fortune conséquente, léguée de père en fils depuis son arrière-grand-père. Outre de petits legs à de nombreuses personnes, y compris des dons en espèces à Malcolm Mookie MacDonald et Hilary Katz, alias Pagan Starshine. La plus grosse partie de la succession devait être partagée entre Georgia Donlan et moi. Étant donné le décès de Georgia entre les mains de Hugh, ce legs-là aurait pu donner lieu à 20 bonnes années d'argusie judiciaire avec honoraires juteux à la clé pour des avocats spécialisés en droit de succession. Mais comme il n'y avait personne avec qui entrer en conflit, je n'en avais certainement aucune intention, il n'y a eu aucune dispute. Les avocats de Hugh ont contacté Bree pour lui faire savoir qu'en sa qualité de descendante de la défunte, elle pouvait valablement réclamer sa part du butin. Mais Bree n'a pas voulu poursuivre. L'avocat chargé de ma partie de la transaction m'a confié qu'elle avait prétendu que l'argent de Hugh était souillé. Peut-être bien qu'il l'était, mais je n'ai eu aucun scrupule à prendre ma part. D'abord, et dans une moindre mesure, parce que je n'avais jamais été partie prenante de la guérison de Hugh, ensuite et surtout parce que je m'estime moi-même déjà souillé, et qu'il me semble qu'il vaut mieux être souillé dans le confort plutôt que dans la pauvreté. Je n'ai aucune idée de ce que sont devenus les quelques millions qui auraient dû revenir à Georgia, et je n'ai aucun désir de le découvrir. Trop de connaissances peut nuire. Je suis bien placé pour le savoir. Quand ma séance bi-hebdomadaire est terminée et ma note payée, je quitte le cabinet du Dr. Braithwaite. Je me retrouve dans un vaste corridor garni de moquettes, bordé de portes donnant sur d'autres cabinets. Je pourrais tourner à droite et regagner le hall d'entrée et du hall d'entrée rejoindre Cooley Road. Mais je ne tourne pas à droite, je tourne à gauche. Je suis tombé sur Ed par un concours de circonstances, voyez-vous. À l'origine, j'étais venu au centre psychiatrique Brandon L. Martin dans un autre but. Je longe le corridor, puis je traverse le jardin magnifiquement entretenu et divinement parfumé qui constitue le cœur de verdure de cet important complexe de soins. Là, des patients sont assis à prendre le soleil toujours fiable de Hawaï. Beaucoup sont vêtus de pied en cap, d'autres sont en pyjama ou en chemise de nuit. Quelques-uns, les plus récemment arrivés, je pense, sont en chemise d'hôpital. Certains bavardent avec des collègues pensionnaires ou avec des compagnons invisibles. D'autres sont simplement assis là à fixer les arbres et les fleurs avec des yeux vides, drogués jusqu'aux ouïes. Deux ou trois sont accompagnés d'aides-soignants, de peur qu'ils ne se blessent ou n'en blessent d'autres. Les aides-soignants me saluent généralement par mon prénom quand je passe. Ils me connaissent bien maintenant. De l'autre côté de cet atrium à ciel ouvert se trouve Cosgrove Hall, l'une des trois résidences long séjour du centre psychiatrique. Les deux autres sont réservées aux courts et moyens séjours, désintoxication de substances addictives pour la plupart. La durée d'hospitalisation moyenne y est de 28 jours. Cosgrove est destiné aux gens qui ont besoin de plus de temps pour guérir, s'ils guérissent un jour. Tout comme le couloir du bâtiment principal, celui de Cosgrove est large et garni de moquettes. Tout comme dans le couloir du bâtiment principal, l'air y est rafraîchi à la perfection. Mais il n'y a aucune image sur les murs et pas de musique d'ambiance non plus, car ici, certains des patients entendent des voix qui leur murmurent des obscénités ou leur soufflent de sinistres directives. Dans le couloir du bâtiment principal, certaines portes sont ouvertes. Ici, toutes sont fermées. Cela va faire bientôt 2 ans que mon frère Conrad réside à Cosgrove Hall. La direction du centre, en accord avec son psychiatre, souhaite lui faire intégrer un établissement plus permanent. Il a été question d'Aloha Village sur Maui. Mais jusqu'à maintenant, je m'y suis opposé. Ici, à Kailua, je peux venir le voir après mes rendez-vous avec Ed, et grâce à la générosité de Hugh, je peux financer sa pension. Je dois cependant avouer que ma remontée du couloir de Cosgrove représente une épreuve. Je tâche de m'en acquitter en gardant les yeux rivés sur mes pieds. Je peux le faire car je sais qu'il y a exactement 142 pas de la porte de l'atrium à celle de la petite suite de Connie. Je n'y parviens pas toujours. J'entends parfois une voix qui chuchote mon nom, mais la plupart du temps je réussis. Vous vous souvenez du copain de Connie, n'est-ce pas? L'Apollon du département de botanique de l'Université de Hawaï? Je n'ai pas mentionné son nom à l'époque et je n'ai pas l'intention de le mentionner aujourd'hui. J'aurais pu le faire s'il était venu rendre visite à Granny, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais il n'est pas venu et il ne viendra pas. Si vous lui demandiez pourquoi, je suis certain qu'il vous dirait « Pourquoi diable irais-je rendre visite à l'homme qui a essayé de me tuer ?» Personnellement, je peux penser à deux raisons. La première, c'est que Conrad n'avait pas toute sa tête, n'avait pas sa tête du tout en fait. Après avoir frappé l'Apollon sur le crâne à coups de lampe, mon frère s'est enfermé dans la salle de bain et a avalé une poignée de Valium, une petite poignée. Quand l'Apollon de la botanique est revenu à lui, avec une plaie sanglante du cuir chevelu, nécessitant quelques points de suture, mais pas plus amoché que ça, il a appelé les secours. Les pompiers sont arrivés et ont enfoncé la porte de la salle de bain. Granny était dans le coltard et ronflait dans la baignoire. Les ambulanciers l'ont examiné et n'ont même pas jugé bon de lui faire un lavage d'estomac. Mon frère ne s'est pas donné grand mal pour essayer de tuer l'Apollon de la botanique, ni pour se tuer lui-même. Voilà la deuxième raison. Mais naturellement, il a été l'un des tout premiers cas de guérison de Jacobs. Peut-être même le tout premier. Le jour de son départ de Harlow, Charlie m'avait confié que Granny s'était presque certainement guéri tout seul. Le reste n'était que tour de passe-passe, pur entourloupe. C'est un savoir-faire qu'ils essaient d'enseigner pendant les études de théologie, m'avait-il dit. J'ai toujours été bon pour ça. Sauf qu'il mentait. La guérison de Conrad était aussi réelle que son état semi-catatonique actuel. Je le sais bien maintenant. C'est moi que Charlie a entourloupé, pas seulement une fois, mais maintes et maintes fois. Et pourtant, on peut s'estimer heureux, non ? Conrad Morton a passé de belles et longues années à contempler les étoiles avant que je ne réveille la mer. Et il y a de l'espoir en ce qui le concerne. Il joue encore au tennis. Après tout, même s'il ne parle jamais, et comme je l'ai déjà dit, c'est un crack au volet. Son médecin dit qu'il a commencé à manifester des signes de réponse accrue. Allez savoir ce que ça signifie. Et les infirmiers et aides-soignants sont moins susceptibles d'entrer et de le trouver debout dans le coin en train de se taper doucement la tête contre le mur. Ed Braithwaite dit qu'avec le temps, il est possible que Conrad revienne complètement, qu'il revive. J'ai fait le choix de croire que oui. On dit bien que là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je n'ai rien à redire à ça. Mais moi, je crois que l'inverse est aussi vrai. Il y a de l'espoir, donc je vis. Deux fois par semaine, après mes conversations avec Ed, je vais m'asseoir dans le salon de la suite de mon frère et je parle encore un peu. Une partie de ce que je lui raconte est vraie. Une bagarre à la soupe populaire qui a nécessité l'intervention de la police. Un arrivage massif de fringues pratiquement neuves au Goodwill. Que je me suis enfin décidé à regarder les 5 saisons de la série The Wire. Et le reste est inventé. Comme la femme que je suis censé fréquenter qui travaille comme serveuse à la boulangerie Nini Goose. Et mes longues conversations Skype avec Terry. Mes visites sont des monologues plutôt que des dialogues, et c'est ce qui rend la fiction nécessaire. Ma vie réelle ne suffit pas, parce que ces temps-ci, elle est aussi chichement meublée qu'une chambre d'hôtel bon marché. Je termine toujours en lui disant qu'il est trop maigre, qu'il faut qu'il mange davantage, et en lui disant que je l'aime. « Et toi, tu m'aimes, Conrad ?» je lui demande. Jusqu'ici, il ne m'a pas répondu. Mais il lui arrive de sourire un peu. Ce qui est une réponse en soi, vous ne trouvez pas? Quand 16 heures arrivent et que ma visite s'achève, je rebrousse chemin et repasse par l'atrium où les ombres, celles des palmiers, des avocatiers et du grand ficus aux racines tortueuses plantées au centre, ont commencé à s'allonger. Je compte mes pas et je jette de furtifs coups d'œil à la porte, là-bas, devant moi. Mais le reste du temps, je garde les yeux fermement fixés sur la moquette. À moins que je n'entende cette voix chuchoter mon nom. Quand ça arrive, je suis parfois capable de l'ignorer, et parfois, je ne peux pas. Parfois, je lève les yeux malgré moi et vois que le mur d'hôpital, peint d'un jaune pastel apaisant, a été remplacé par des pierres grises, jointes par un antique mortier et couvertes de lierre. Le lierre est mort, et ses branches ressemblent à des mains squelettiques qui se tendent. La petite porte dans le mur est dissimulée à la vue. Astrid avait raison, mais elle est là. La voix provient de derrière la porte et elle filtre au travers d'un antique trou de serrure rouillée. Je vais résolument de l'avant, évidemment. Des horreurs dépassant la compréhension attendent de l'autre côté de la porte. Non seulement territoire de la mort, mais territoire d'au-delà de la mort. Lieu empli de couleurs démentes, de géométrie folle, de gouffres sans fond, où les grands vivent leurs interminables vies extraterrestres en pensant leurs interminables pensées malveillantes. C'est le nul au-delà de cette porte. Je vais de l'avant et je pense au distique dans le dernier mail de Brie. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. « Jamie !» chuchote une voix de vieillarde par le trou de serrure d'une porte que je suis seul à voir. « Viens, viens à moi et vis à jamais. » « Non, je lui réponds, exactement comme je lui ai répondu dans ma vision. Non. » Et jusqu'ici, tout va bien. Mais un jour viendra où il se passera quelque chose. Ce jour finit toujours par arriver. Et quand ce jour arrivera, je rejoindrai la mer. 6 avril 2013, 27 décembre 2013.